Quand on veut s'intéresser à notre société numérique, en règle générale, on ne pense pas immédiatement à tous les aspects physiques de la chose. En même temps, lorsque nous y pensons, les premiers objets qui nous viennent en tête sont souvent les ordinateurs ou les smartphones. Les plus connaisseurs auront peut-être en tête les data centers ou même les câbles sous-marins.
Pourtant, une partie de l'imagination numérique tente de relier, dans un sens deux fois utopique, deux fois dystopique, les numériques et les corps. C'est dans cette optique que nous avons commencé à nous intéresser au handicap. Même s'il s'agit d'un sujet souvent relégué au second plan, il existe un monde qui travaille sur la manière de réparer ou d'augmenter les corps humains. Au centre, on y trouve des Fab Labs, ces labos de bricoleurs qui mélangent entraide et création autour des projets open source.
Dans ce nouvel épisode, pour parler de ces sujets, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Nicolas Huchet, fondateur du Fab Lab My Human Kit, et Charlie Dreano, directeur de l'association.
Ok, je lance AZERTY.
On vous a déjà parlé des Fab Labs. Souvenez-vous, ces espaces où s'exprime la créativité de chacun autour de projets open source. Dans ces tiers-lieux, les personnes s'accompagnent et s'entraident à maîtriser les nombreux outils présents, allant du micro-ordinateur à la découpeuse laser, et j'en passe. Tony Van Pook, que nous avions reçu à l'époque, nous disait qu'il était courant que les Fab Labs aient une coloration, c'est-à-dire des spécialités ou des sujets de prédilection. Et My Human Kit, vous l'aurez compris, s'est axé sur le handicap. Alors, on reviendra sur la genèse de l'association et sur quel type de projet Nicolas, Charlie et les bénévoles travaillent. Mais pour faire simple, My Human Kit, c'est donc un lieu de créativité technique et technologique, ouvert comme tout Fab Lab, qui s'intéresse particulièrement à la question du handicap. Pour s'intéresser à cette question, c'est bête, mais il faut pouvoir se mettre d'accord sur des définitions. Alors on a demandé à Nicolas, lui-même ayant perdu sa main droite dans un accident de travail, son avis sur le sujet.
Pour moi, le handicap, c'est quelque chose qui nous ralentit un petit peu, plus ou moins, dans la vie. T'en as pour qui ça va être très 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 fort. Et s'il y a toujours aussi un élément comparatif, hein, si tu mets plein de personnes tétraplégiques qui ont très peu de mobilité ensemble, et ben en fait elles sont toutes à la même vitesse. Donc c'est plutôt par rapport à la norme sociale, on va dire, d'aller vite et gagner du temps, où je dirais que c'est vraiment le premier critère, c'est qu'en fait on est plus lent, on est moins rapide que le souhaiterait la société. Voilà. C'est comme ça que je le traduis, moi.
Bon, du coup, l'handicap s'est défini en fonction d'une norme, et cette norme n'est pas décidée au hasard. C'est la société qui la décide selon les choses à elle plus importantes. Pour faire un exemple un peu simpliste, si une société met au centre la production des marchandises, bien évidemment, tout ce qui nous ralentit est hors de la norme. Et ce ralentissement peut être de n'importe quel type. Et c'est pour ça qu'il y a différents types d'handicap, cognitifs, physiques, etc. Et même si nous on reste dans l'handicap physique, il peut y avoir tellement de types différents. Du coup, face à toute cette variabilité, la question que je me pose est la suivante. Quel type de projet sort des MHK et comment, compte tenu de tout ça, ils arrivent à créer des augmentations aussi différentes pour l'un et les autres et pour chaque cas individuel?
En fait, on n'a pas, nous, de préconçus, de dogmes. En fait, le principe, c'est d'avoir une porte ouverte, au moins une partie de la semaine, dans laquelle une personne handicapée vient et nous dit, en fait, moi, je rencontre cette difficulté, j'ai cette envie-là, et du coup, par rapport à cette difficulté ou cette envie, j'ai envie de me fabriquer tel objet ou j'ai cette première idée. Et nous, c'est à partir de ça que des projets naissent à My Human Kit, parce que cette personne-là, elle va rencontrer des salariés de l'association, des bénévoles de l'association. Et c'est de là que va démarrer un projet. Donc, en fait, le spectre de projet, ça va effectivement main myoélectrique, qui est un des premiers projets de l'association. Ça passe aussi par une petite adaptation pour attraper une fourchette, l'électrification d'un fauteuil manuel, l'aménagement d'une rampe, le rehaussement d'une table de cuisine chez quelqu'un. Enfin voilà, c'est vraiment très divers. Nous, notre entrée, elle n'est pas des types de handicap, des classes d'âge, etc. Notre accueil, il est inconditionnel. Ça, on le revendique en disant tout le monde peut venir à My Human Kit. J'ai l'impression de voir les équipes et les bénévoles travailler à My Human Kit qu'on ne se pose pas trop la question du handicap. En fait, l'intérêt, c'est plutôt de se poser la question de la solution qu'il y a à trouver. En fait, on se demande pas c'est quel type de handicap, si le monsieur il est plus aveugle, moins aveugle que son voisin qui a l'air aveugle aussi. C'est juste, bah tiens, on va réfléchir à comment mettre une carte en 3D plutôt qu'en 2D pour que chacun puisse la lire avec du relief. Donc c'est, voilà, la difficulté se loge plutôt dans la réalisation des objets et pas tant dans la compréhension du handicap de la personne qui arrive, parce que je pense qu'on se... Enfin, c'est ce que Nico a voulu faire avec le collectif quand on a fondé l'association, enfin quand ils ont fondé l'association, c'est de créer pas trop un espace de soins et pas trop un espace comme beaucoup d'espaces autour du handicap où on parle de ta maladie, plutôt un espace où on parle de ce que tu veux faire.
Ok, là je crois qu'on tient un truc intéressant. Quand on est une personne valide, je pense qu'il est peut-être difficile de remarquer à quel point les lieux en lien avec le handicap sont d'abord et avant tout des lieux de soins. Et Charlie me fait remarquer que c'est pas du tout ce qu'essaye d'être My Human Kit. Au contraire, on a ici un lieu alternatif pour les personnes handicapées. Cette connaissance du monde du handicap, Gou et moi ne l'avons pas. Et par conséquent, certaines de nos questions sont peut-être infantilisantes ou sont teintées d'un validisme que nous n'avions pas vu. Nous sommes tombés dans le piège du point de vue médical de la question. Pour nous, il était intéressant de se demander comment des personnes qui n'ont pas d'expertise médicale peuvent-elles travailler sur des objets en lien avec leur handicap. Et si finalement la question avait été mal posée, la réponse n'en est pas moins intéressante.
Alors excuse-moi de le dire comme ça, mais parce que du coup c'est le regard il est pas bon, parce qu'en fait l'expert il est la personne qui est en situation de handicap. Et du coup c'est elle qui dit en fait je veux ça, je veux pas ça, il faut que ça marche comme ça. Là Nico pourrait en témoigner peut-être en rebond, mais c'est à ça qu'on s'astreint et c'est à ça qu'on est vigilant avec les équipes et avec les bénévoles, c'est de pas décider à la place de la personne. Et c'est ce qui se passe parfois dans les parcours de soins quand t'es handicapé ou même juste quand t'es malade. Voilà, tu vas chez ton médecin, t'aurais plutôt envie d'avoir un soin global. Je sais pas, qu'il t'envoie plutôt chez l'ostéo pour avoir un soin global, mais il te prescrit 10 séances de kiné juste pour traiter un problème au genou, alors que le problème est peut-être plus global. Donc t'es souvent toi-même plus conscient de ce dont t'as besoin que le parcours de soignant qui t'accompagne. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'eux, mais en tout cas, c'est My Human Kit, c'est un espace où du coup on te dit pas ce que tu dois penser. T'es un espace où c'est toi qui l'exprime.
On voudrait casser ce rapport de sachant qu'on a toute notre vie avec le prof, les parents, le N+1 dans l'entreprise et tout, et donc dans le secteur médical ou du handicap, bah c'est le prothésiste, le médecin, l'infirmier ou l'aide-soignante qui parfois dans son rôle aussi de protéger la personne qui et son expérience et de fait de son métier, de tout ce qu'elle a appris et de l'école aussi, de tout ce qui est, voilà, arrive parfois avec une posture où elle sait un petit peu ce qui est bon pour toi, quoi.
Comme l'a dit Alex, notre point de vue peut être mal adapté aux questions d'handicap. Du coup, si nous aussi, vu qu'on vit dans la norme et pas dans la marge hors de la norme, on peut avoir de mauvais angles sur le sujet, j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Par exemple, même si les corps médicaux devraient être habitués à travailler avec l'handicap, on peut aussi se dire qu'ils et elles ne sont pas nécessairement exemptés de vivre dans la norme qu'on discutait tout à l'heure, exactement comme nous. On pourrait donc penser que l'ensemble de médecins, infirmiers, etc. a quelque chose à redire sur MHK, c'est-à-dire une bande de bricoleurs fous qui testent des prothèses. Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme ou plutôt des conflits ?
S'il y a un championnat de foot et que t'es l'équipe amateur et que tous les autres sont des professionnels, en fait, ils vont pas se moquer de toi. Enfin, tu vois, ils vont dire, bah, ils continuent à vous amuser. Et donc, nous, c'est justement notre rôle, c'est d'être ce bac à sable, en fait, de se revendiquer comme n'étant pas professionnel. Et c'est justement grâce à ça qu'on attire des personnes qui sont ni bricoleurs. Voilà, en fait, c'est un endroit où on peut venir un petit peu se plaindre de ce qui marche pas, mais aussi un petit peu rêver de ce qu'on aimerait. Moi, si je prends l'amputation, je rencontre pas mal de personnes qui voudraient des fois juste une perceuse au bout du bras. Et c'est sûr qu'on peut pas dire à notre prothésiste, vous avez une perceuse. C'est pas son métier. Donc, bah, nous, c'est de dire, écoute, il y en a déjà trois qui m'en ont parlé. Ça se fait pas comme ça. Tu vois, c'est aussi de démystifier My Human Kit, parce qu'on a eu à un moment donné, je pense, on a été générateur d'espoir avec la main imprimée en 3D. Et on avait des demandes qui étaient impossibles à traiter, mais on le savait n'avait pas nous-mêmes, puisqu'on était dans cette euphorie et dans cet enthousiasme de dire « Oh ouais, il n'y a pas de limite, justement, il n'y a plus de barrière. » Et on avait une personne qui arrivait avec deux jambes en moins et on se disait « Comment on va faire pour l'aider ?»« Ah ouais, on pourrait utiliser... Enfin, » en fait, quand j'y repense aujourd'hui, on s'imaginait des trucs... mais c'était bien, on était naïfs, en fait. C'est bien aussi de passer par cette phase-là où tu crois que tout est possible et que... Bon, ça crée de l'espoir et puis, bon, en tout cas, ça met dans un élan, quoi, voilà.
Ici, Nicolas me dit quelque chose de fondamental pour moi. Avec un regard un peu naïf, on pourrait imaginer un lendemain, dans un futur proche, où il serait possible de réaliser une utopie. Des Fab Labs capables de créer des prothèses, adaptées aux besoins de chacun et chacune, pour tous les types de corps et rapidement. Un véritable laboratoire d'augmentation humaine digne d'un film de science-fiction, dans lequel nous pourrons nous réparer rapidement et sans problème.
Bon, ça, c'est clairement un horizon difficile à atteindre. Mais on le verra plus tard, à My Human Kit, il bosse un peu sur cet idéal quand même. En tout cas, comme Nicolas l'a rappelé, cette main bionique, elle a été génératrice d'espoir. Alors, on lui a demandé de nous raconter un peu cette histoire. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un qui se dit « Tiens, si je me réparais moi-même ?»
C'est le mélange de déception, frustration, d'impasse un peu dans mon parcours de vie où j'approche la trentaine. J'ai pas trop d'avenir, donc je suis assez désespéré, quoi. Et j'ai cette prothèse qui tombe en panne et il y a des nouvelles prothèses du coup qui coûtent cher et tout ça. Donc il y a cette frustration un peu. Ça, c'est le premier élément moteur. Et le deuxième, c'est la rencontre avec les Fab Labs. Et donc il y avait le Fab Lab de Rennes que j'ai découvert par hasard, et quand j'ai vu l'imprimante 3D, je leur demande justement si on peut faire des marobots avec ça, quoi. Et je suis tombé sur une bande d'illuminés, si je peux dire ça comme ça, mais un peu des joyeux geeks très humains qui sont dit pourquoi, et quand ils ont vu la prothèse, ils ont dit mais comment ça marche, et puis en fait on a parlé de ça, et puis après on est allé sur internet, et puis c'était des passionnés, en fait, c'est comme ça que j'ai en espace de 10 minutes, j'ai découvert qu'on pouvait télécharger des objets en 3D sur un ordinateur, qu'on pouvait les imprimer. Parmi tous ces objets, il y avait une main robot et que les plans étaient open source, et que, en fait, le défi, ce serait de la fabriquer au Fab Lab. Et donc, en histoire de 10 minutes, c'était plié, quoi. Ça y est, j'ai un objectif dans la vie. C'est un jour, c'est de que ce truc-là, là, ce soit concret. J'ai compris qu'on pouvait imprimer des 1D, qu'on pouvait imprimer des trucs. Ça, c'est ma robot. Si un jour je fais ça, c'est bon. Voilà. Et c'est parti avec cet objectif-là.
Et c'est comme ça qu'est née aussi l'idée de ne pas juste imiter une prothèse homologuée, mais bien de proposer des alternatives réellement utiles.
Il y a ce truc qui existe, que les mains électriques, mieux électriques, donc c'est une main électrifié, motorisé, qui bouge grâce à l'impulsion des muscles du moignon, et c'est en mettant des petites électrodes en contact avec la peau qui fait que, en contractant le muscle, on fait bouger la main. Donc c'est le principe de fonctionnement d'une prothèse mioélectrique. Et c'est vrai que ça, si tu veux, pour pas mal de prothésistes, c'est l'outil parfait. Parce que ça ressemble à une main, ça donne de l'autonomie, et donc pour un amputé, ils vont lui proposer ça. Voilà. Avant, il n'y avait pas ces prothèses électriques. Ça date vraiment des années 80, 90 où ça a commencé. Voilà. Avant, ça existait sous forme de prototype, on va dire, dans les années 70. C'est à ce moment-là que ça a été inventé, mais le temps que ça arrive, il s'est passé une bonne décennie. Donc moi, en 2002, par exemple, dans les années 2000, il y avait un modèle de prothèses électriques. Il n'y en avait qu'un. Il n'y avait qu'une main. Elle était longue, elle avait une vitesse constante, c'était dégueulasse, quoi. C'est pour ça que, j'étais très déçu. Mais avant qu'aient ces mains fonctionnelles et esthétiques, y avait une simple pince de travail, et puis c'était beaucoup des manuels, en fait, qui perdaient leurs mains, ou alors des gens pendant la guerre. Donc c'était plutôt des hommes, bricoleurs, donc on leur donnait une pince de travail pour qu'ils puissent retourner travailler dans les champs ou à l'usine, etc., etc. Le côté fonctionnel, en fait, c'était le côté fonctionnel qu'on recherchait. Donc ces solutions-là, si tu veux, qui sont ni une main, qui sont pas une main et qui sont pas électriques, ça existe déjà. Sauf que avec le techno-solutionnisme, où on croit que ça c'est mieux, effectivement, dans la tête des gens, on se dit que c'est quand même mieux d'avoir une main électrique. Et les prothésistes, c'est ce qu'ils pensent, voilà. Nous, en fait, à My Human Kit, en ayant cette liberté justement d'agir et de se réapproprier son handicap, moi j'ai pu formuler la demande de dire un couteau c'est chiant, on peut pas cuisiner avec une prothèse. Voilà, je peux pas râper mes carottes, je peux pas, tu vois, je voudrais couper de l'ail en fait, je voudrais sentir les légumes. Donc on téléporte le couteau en fait à la place de la prothèse. Et ces solutions là qui existaient, qui sont très coûteuses, j'allais pas moi jamais de ma vie j'achèterais un couteau prothétique à 200 balles, j'en ai rien à foutre en fait. Tu vois, mais ça existe, mais comme c'est un truc normalisé qui voilà. Donc aujourd'hui nous on a inventé ça. Et c'est vrai que on peut travailler, on peut personnaliser avec les personnes. Là ça fait quand même deux personnes amputées d'une main qui elles ont un besoin, c'est pouvoir s'attacher les cheveux. Et ça n'existe pas si tu veux le truc. Donc on invente un truc pour s'attacher les cheveux. Moi mon truc c'était la batterie. Voilà, je pense qu'on a la meilleure baguette prothétique du monde parce que c'est le plus léger, enfin ça dure bon. Moi j'ai regardé tous les trucs qui se faisaient, franchement on a le meilleur truc. On fait des solutions sur mesure, des choses que ne pourrait pas faire la prothèse. Effectivement, on offre des possibilités qui n'existaient pas.
C'est évident pour les PSH, mais peut-être un peu moins pour nous. Certains et certaines PSH ne souhaitent pas forcément rentrer dans la norme, c'est-à-dire retrouver une main dans ces cas. Parfois, les inconvénients l'emportent sur les avantages. Et la chose la plus importante semble être de retrouver une fonctionnalité spécifique qui leur est chère. Les PSH ont souvent plusieurs prothèses pour différents usages. Mais la voix de Nicolas est remplie d'émotions quand il décrit toutes les choses qu'on peut faire avec ce prothèse et tous les types de prothèses. Et c'est là qu'une question se pose. Mais si la norme existe dans les corps, et ça doit exister aussi pour les prothèses, non? Je veux dire, c'est pour ça qu'on a une tonne de réglementations et de lois pour réguler tous les produits qu'on invente. Mais comment ça marche dans leur cas? Je veux dire, si j'achète une prothèse, ça doit être homologué. Mais du coup, si je me la fais moi-même dans un Fab Lab, c'est ok, il n'y a pas de souci.
C'est un métier en fait d'homologuer l'homologation. Nous on fait tout un travail qu'on appellerait de la R&D si on était en entreprise. On fait une R&D collaborative, donc si je prends l'exemple de la prothèse ou de la motorisation des fauteuils, on fait tout un tas de développements qu'on fait par la voie collaborative qui fait qu'on n'a pas à faire appel à des investisseurs ou emprunter de l'argent à la banque en montrant des bulletins prévisionnels, des bilans prévisionnels qui disent que dans 6 ans on aura vendu tant d'appareillages et qu'ils seront remboursés et que même on fera même un super rendement qui fait qu'on va générer du profit et qu'on sera une entreprise lucrative. Donc ça nous permet ça, et avec toute la difficulté de trouver du coup des bénévoles, des partenaires. Donc c'est pas mieux que ce qui existe en vrai, hein. Par contre tu te l'es fabriqué et puis c'est vraiment accessible, ça a coûté, aujourd'hui ça coûte zéro d'ailleurs, hein. Mais on a besoin par contre du retour des utilisateurs qui eux utilisent ces trucs du commerce et qui disent « Ah mais il y a ça sur le truc du commerce que vous n'avez pas, et franchement je pense que c'est pas grand chose, ça pourrait vous faciliter la vie, enfin on a besoin de ça quoi. »
Quand Nicolas nous raconte son expérience avec sa main myoélectrique, on comprend que l'existence même de My Human Kit a du sens. Après tout, il n'y a que Nicolas qui peut se rendre compte de ce que Nicolas a besoin. Enfin, ça c'est ce que je me suis dit en écoutant son témoignage qui souligne un certain manque d'inclusion dans les équipes en charge de produire ces aides techniques.
Les personnes concernées ne sont pas incluses dans le développement des prothèses de main pour amputer, c'est clair. Parce que le premier critère de rejet de prothèse, c'est le poids. En fait, à partir du moment qu'une prothèse est lourde, on ne la porte pas. Et elles sont toutes super lourdes. Donc, enfin, j'ai rien. Après, les tout derniers modèles, ils font vachement de bruit. Ça tombe toujours en panne. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui colle pas, quoi. C'est donc, maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. On invente un produit, on fait du marketing pour dire qu'il est génial, et puis ça donne envie aux gens de l'avoir. Et puis, une fois qu'ils l'ont, ça tombe en panne. Mais comme ils ont rien testé d'autre, ils se disent que c'est comme ça, que c'est la faute à la pas de chance, quoi. Mais
il y a probablement aucune personne qui a été intégrée dans toutes ces démarches de la création au marketing.
En tout cas, ça change. Enfin, ça change. Et en fait, qu'ils n'ont pas été intégrés, incluses, c'est parce qu'aussi, la place de la personne handicapée dans la société, c'est une personne fragile. Tu vois, donc, elle va pas se sentir capable comme ça de dire « Moi, j'ai envie de participer à votre programme de R&D ». D'ailleurs, moi, avant même My Human Kit, je les contactais, ces labos. Bah oui, Et ils me disaient, ouais, tu peux passer. Mais en fait, ils s'en foutaient un peu. Moi, je pensais que les mecs, ils allaient me dire, putain, mais ouais, génial, tu vis en Italie, mais attends, on te garde 5 jours, on va faire des trucs. En fait, combien de temps tu restes? Une nuit? Bon, ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alors qu'en fait, j'étais leur putain de cobaye, quoi, je comprenais pas.
Et là, on entend la lassitude dans la voix de Nicolas. De la lassitude envers le monde industriel et médical qui, on se doute, doit être partagé par les membres de son Fab Lab.
Azerty.
Autour de moi, cependant, je constate un intérêt croissant pour les sujets. Pour donner 2 exemples, de plus en plus, je vois préciser si un événement est accessible en PMR ou pas. Ou, un autre exemple, dans le monde de jeux vidéo, on en parle de plus en plus, avec certains jeux qui ont de menus accessibilité. Soyons clairs, hein, nous sommes très loin d'un monde qui met aussi les PSH dans la norme et qui du coup ça devient vraiment accessible pour eux et elles. Mais je me demande s'il y a eu des avancées au cours des dernières décennies, au moins sur les plans technologiques.
Bah, les choses elles évoluent très vite, en tout cas je trouve, avec le numérique. Parce qu'aujourd'hui, t'as un Google Home ou je sais pas quoi, tu parles à ton smartphone, tu fermes tes volets. Enfin, faut quand même savoir qu'il y a 10-15 ans, il fallait faire venir une entreprise externe pour connecter tes volets à un appareillage que t'allais mettre sur ton fauteuil pour fermer toi-même tes volets le soir. Aujourd'hui, tu dis ferme les fenêtres. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent à MyHumanKit qui viennent expliquer comment tu connectes ton smartphone à des volets roulants avec une application open source sans passer par le Google Home, etc. Franchement, c'est un truc de quand même de dingue, quoi. Quand je vois une quadruple amputée qui achète une Tesla, je suis anti bagnole comme ça, mais qui me dit ben en fait c'est la voiture la plus adaptée pour moi. Parce que, bah, regarde la poignée, regarde le truc, ça c'est juste... Il y a 10-15 ans, un quadruple amputé, pour reconduire, ça aurait pris 3 ans, enfin je sais pas, de trouver la bonne bagnole, de machin, alors on va prendre une boîte auto, enfin je veux dire, c'est quand même, aujourd'hui les boîtes automatiques, il y en a plein. Et d'un autre côté, il y a le problème qui est la miniaturisation des objets, qui fait que bah c'est plus compliqué à manipuler. Voilà, ça c'est un truc. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est génial. En fait, moi, ce que j'observe au niveau de ma propre expérience, c'est que tout ce qui est soft, ça va à une vitesse de dingue. Et là où ça freine, par contre, et où ça va de plus en plus lentement, parce que justement, on met tout dans le soft, bah, c'est le hardware. Donc, par exemple, bah, je vois bien dans la mentalité des ingénieurs, quand ils me parlent de prothèses, ils me disent, bah, on peut mettre du deep learning et de l'IA, et puis si on mettait un autre moteur et tout, je dis, bah, non, en fait, il faut que mécaniquement, il faut que ce soit costaud. Tu vois, il n'y a plus de boutons maintenant il n'y a plus de boutons. Il n'y a plus de boutons nulle part, les téléphones, il n'y a pas de boutons, une tablette, il n'y a pas de boutons, donc en fait, on transforme tout en écran, en reconnaissance vocale, en machin, et tu sais pas en fait si c'est on ou off, il faut qu'il y ait la petite lumière qui te le dit, tu vois, toi c'est...
Ça c'est des barrières d'accessibilité
Je sais pas, si tu prends un ampli hi-fi de l'époque, il fallait quand même assez de force dans le doigt pour appuyer sur le bouton, tu vois, donc je sais pas, un retour en arrière en fait, c'est pas mieux ni pire, il y a les deux. Et aujourd'hui le mec il rentre chez lui, il dit allume, mets-moi le morceau, mets-moi Kruang Bean, Texas Sun, et paf, il te joue le morceau que tu voulais, alors que avant fallait appuyer sur la chaîne, brancher le câble, enfin, tu vois tous ces trucs quand même qui fait, suivant les handicaps en fait ça change tout. C'est hyper différent. Moi, tu vois, j'utilise du Apple. C'est les seuls qui font encore des téléphones qui ressemblent pas à des fer à repasser, tu vois. Moi, je peux pas tenir à deux mains un téléphone. Et j'ai pas envie, voilà. Et puis deuxième truc, je transfère de mon ordinateur. L'ordinateur aussi. Oh putain. Et l'ordinateur aussi, c'est ça. Parce que moi, je prends beaucoup de photos, je fais beaucoup de vidéos, des trucs comme ça. Franchement, mais brancher un câble. Pour mon ordi, il faut les deux mains. Enfin, c'est compliqué pour moi. Comme je le fais souvent, et en fait, je vais abîmer le câble, je vais abîmer l'ordinateur ou le téléphone. Donc, il y a ce truc là de AirDrop là.
Alors là, tous ces discours m'ont fait comprendre que même si on avait déjà discuté la variabilité de l'handicap, moi, j'avais pas réfléchi à tous les reflets après qu'il pourrait y avoir. Pourtant, tout est logique. Les ingénieurs qui se focalisent sur les softwares, les designs comme clé pour l'accessibilité. L'exemple de la disparition des boutons. Certes, il y a le fait que je ne connais pas personnellement ces mondes-là, mais ce qui me surprend le plus, ce sont tous les détails liés à l'évolution de la technologie et à la manière dont elle s'adapte ou non, accidentellement, aux différents types d'handicaps. Si l'utopie d'un Fab Lab capable d'augmenter les corps en toute situation n'est peut-être plus l'horizon de My Human Kit, je pense sérieusement qu'une de leurs forces est de montrer ce qui est possible si les PSH sont mis au centre et du coup indiquer une voie différente à la conception de la technologie.
Bon, honnêtement, on était déjà un peu convaincus par le projet en contactant Charlie et Nicolas. Mais à ce stade-là de l'interview, le projet nous semble être une nécessité au vu de son impact social. Alors on a demandé, est-ce que c'est possible d'imaginer My Human Kit partout, dans toutes les villes par exemple ?
Bah ouais, nous on l'imagine en tout cas. Ça existe en fait, il y a des initiatives portées par des acteurs, des actrices sur des territoires. Il y en a à Lyon, il y en a à Montpellier, il y en a à Laval. Là j'avais un coup de téléphone tout à l'heure avec quelqu'un qui était au nord-ouest de la Bourgogne-Franche-Comté, qui avait déjà un Fab Lab, qui faisait déjà des projets autour du handicap et qui me demandait comment il pouvait rejoindre ce réseau. Donc aujourd'hui le Human Lab c'est un label en fait. Il y a des structures qui sont labellisées pour porter les valeurs qu'on porte, pour essayer de les faire vivre sur des territoires. En gros c'est un lieu ouvert dans lequel, c'est pas un lieu que pour les handicapés, c'est pas un lieu que pour les valides qui bricolent pour les handicapés, c'est un lieu où les gens se rencontrent. Donc voilà, ça c'est l'ouverture, la mixité, la fabrication de projets ou de supports pour des personnes en situation de handicap et avec ces personnes-là, et la documentation de ces fabrications-là. Voilà, ça c'est les trois engagements qu'il faut prendre quand tu veux revendiquer ce label-là. Donc en fait, on essaye d'essaimer ce projet-là pour qu'il puisse servir au plus grand nombre. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y a un maximum de gens en situation de handicap qui peuvent trouver une solution dans un lieu comme ça, et il y a un maximum de gens bénévoles, de bonne volonté qui pourraient avoir envie de contribuer à ces lieux-là. Voilà, ça c'est notre envie. Après, ça nécessite qu'en face, il y ait des gens qui aient de l'argent et qui disent « Ok, je veux que sur mon territoire, il y ait un lieu comme ça qui s'installe. » C'était ça l'enjeu. Après, je pense que sur un territoire, le truc n'est pas extensible non plus indéfiniment. Tu vois, nous, aujourd'hui, on a une quarantaine de projets, 50 projets par an. Il y a une équipe de 2-3 salariés qui sont vraiment dédiés à l'accompagnement de ces projets-là. Bah, c'est un dimensionnement de projet qui correspond bien au territoire Rennes Métropole. Voilà. Après, si on voulait... idéalement, tu vois, par exemple, à l'échelle de la Bretagne, ce serait bien qu'il y ait au moins un Human Lab par département en Bretagne qui puisse drainer les demandes de ces gens-là sur ce territoire-là. Et si un jour on avait un Human Lab par département en France et dans les Outre-mer, ce serait super.
Bon, je ne m'attendais pas à commencer la troisième saison de manière aussi positive, mais allons-y. Développement un peu partout de My Human Lab, ou plus généralement, si le travail sur les handicaps ne vous convient pas, d'où numérique par les bas. Enfin, il y a quand même un dernier thème qui nous a suivi en filigrane tout au long de l'interview, et qui on l'a déjà vu dans d'autres épisodes. Est-ce que, par hasard, MHK a une approche de numérique qui s'apparente plus à de l'éducation populaire ?
C'est l'essence même de MHK. Hein. On est dans une société où il faut changer le regard sur le handicap. Et puis, bah, en fait, c'est comme de dire aux gens de rouler moins vite, quoi. Si tu leur donnes des bagnoles rapides... Donc si on veut vraiment que les gens roulent moins vite, et ben en fait on les éduque et on leur dit ben en fait il n'y a pas besoin d'aller vite, et en fait ils se disent ben oui en fait j'ai pas besoin. Donc là, plutôt que de changer le regard sur le handicap, c'est de pareil de dire aux gens faudrait rouler moins vite alors que tu vois ils ont des grosses bagnoles, ben c'est de se dire ben en fait j'ai plus besoin d'essayer de changer le regard sur le handicap parce que j'ai changé le regard que j'ai sur le mien. Donc maintenant, ce que vous pensez, ça me fait plus rien, en fait. J'ai pas besoin de vous changer, vous êtes comme vous êtes. Et en fait, les gens, quand ils te voient comme t'es, se posent plus, justement. En même temps, tu vois, comme par magie, il y a plus ce truc, la personne handicapée, tu vois, il y a plus ça. En fait, on est prisonnier du regard des autres et on est prisonnier de nous-mêmes et on croit qu'en changeant les autres, ça va nous libérer. Bon, je le dis un peu à ma manière, quoi, mais... Alors que si tu t'assumes, que tu te libères, hein, je sais pas, j'utilise ce terme-là, mais si tu, justement, et donc tu te libères en faisant de ton problème ta solution, c'est ce qu'on lui dit souvent aussi. Voilà, donc ton problème en fait c'est ta solution et ça te permet de te libérer d'un truc qui est justement ce fameux regard des fois qui est pas facile à porter. Ouais.
Merci à Nicolas Huchet et Charlie Dréano d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On est très heureux d'avoir pu inaugurer cette saison 3 avec eux. Pour les retrouver et découvrir leur projet, on vous invite à taper My Human Kit sur vos réseaux préférés. Cette saison 3 signe aussi pour nous notre arrivée sur Radio Grenouille. Alors vous qui nous écoutez sur la bande FM, on espère que cet épisode vous aura plu. Si au contraire vous êtes plus podcast, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires, ça nous permettra de nous améliorer. A bientôt pour la suite, en podcast ou sur Radio Grenouille.
azerty.